Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Je suis très ravi de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Nous sommes bien sûr au lundi 6 octobre 2025. Bienvenue à cette émission et merci pour votre fidélité sans cesse renouvelée. Face à la multiplication des dérives sur les réseaux sociaux, le procureur de la République est prêt. Le tribunal de grande instance de Lomé, Mawama Talaka, avertit désormais un commentaire ou un like sur les réseaux sociaux pourront faire preuve alors de poursuites judiciaires. Le ministère public dit constater depuis quelque temps une utilisation inquiétante des plateformes numériques comme Facebook, TikTok ou WhatsApp, diffusion de fausses informations, appel à la haine ethnique ou religieuse, incitation à la violence, atteinte à la vie privée et même à la sécurité de l'État. Or, rappelle le procureur, ces actes constituent des infractions pénales, injures publiques, diffamation, divulgation de secrets professionnels, la perturbation de l'ordre public, entre autres, il souligne que le Togo dispose de lois claires pour réprimer ces abus, notamment le code pénal, la loi sur la cybersécurité et celle sur la protection des données personnelles. Le sujet nous intéresse au Club de la Presse, nous allons l'aborder bien sûr et nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui. Merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse de ce lundi 6 octobre 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Kokou, Vitor Betomega est à la mise en onde. Jérôme Dakouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anéro, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Bagapré de Niamtougou et puis Radio Koktoazi à Dapan. Merci à vous tous qui nous écoutez sur toute l'étendue du territoire national. Vous êtes aussi très nombreux à nous suivre sur hors de nos frontières, notamment bien sûr sur nos plateformes digitales et bien sûr et aussi nos radios partenaires en ligne Ibn Radio et Radio Lebené. Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain aussi du monde entier. Et c'est avec mes confrères journalistes en studio avec moi, Jacques Dakouti. Bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs et auditrices de Canal FM. Je salue nos amis techniciens, salue également nos compatriotes de la diaspora, et nos frères et sœurs togolais qui nous écoutent actuellement. Comme tu l'as si bien dit, nous sommes dans un nouveau mois. Il nous reste seulement que 2 mois pour la fin de l'année 2025. Je voudrais, par cette occasion, demander la grâce de Dieu sur la vie de tout un chacun d'entre nous, sûrement que nous avons des projets, des besoins que nous n'avons pas encore atteints. Il reste seulement 2 mois pour la fin de l'année. J'ai foi en ce Dieu que les besoins des uns et des autres pourront s'accomplir, trouver solution avant la fin de cette année 2025. J'y crois et j'invite les uns et les autres à la persévérance, à garder toujours l'espoir que ce qu'ils attendent viendra, quel qu'en soit Alpha. Et si, Pascal, il fait nuit, c'est qu'il fera également jour.
Ah oui, tout à fait.
Nous sommes également dans le mois d'octobre rose, qui concerne le mois de consommer local et le mois également du cancer. Ces sœurs qui souffrent de cette maladie, ma prière est qu'ils ne perdent pas espoir, parce que celui qui a créé ces seins a également le pouvoir de pouvoir changer les situations difficiles dans leur vie. Et quand on a espoir en Dieu, on ne perd pas toujours ce courage qu'on a par rapport à l'attachement qu'on a en lui. Et je voudrais chuter pour dire également aux parents que nous sommes, aux frères que nous sommes, il est vrai, Pascal, qu'aujourd'hui, les uns et les autres traversent des situations difficiles et d'autres vont même jusqu'à ôter la vie des uns et des autres, soit peut-être que la personne a des troubles mentaux, que d'autres pensent également, que soit c'est l'autre qui a mon problème. Au fait, ça, les choses ne sont pas comme ça. Donc, la vie est si chère, la vie est précieuse, et on ne peut pas ôter la vie d'un être humain, parce que on a des conflits avec la personne, et je voudrais inviter les uns les autres, les parents, qui ont souvent ces enfants, qui ont les troubles mentaux, c'est-à-dire que dirigez-vous vers des centres, essayez d'amener ces personnes-là, approchez-vous de Dieu par rapport à ces situations, et j'ose croire qu'avec la prière et les soins, Dieu pourra passer par l'homme pour guérir l'homme, parce que souvent on dit, Pascal, que le médecin traite, mais celui qui guérit, c'est Dieu. Donc, je voudrais une fois encore inviter les compatriotes, ôter la vie d'un homme, c'est pas ça la solution. Et ceux qui pensent que se susciter, c'est la fin de leurs problèmes, de leurs difficultés, c'est faux. Vous ne ferez qu'augmenter vos souffrances. Donc, beaucoup de courage par rapport aux uns aux autres. Surtout, ces temps-ci, nous sommes en train d'assister à des assassinats de gauche à droite parce que tel a des troubles mentaux, on ôte la vie à sa maman. C'est pas bien pour une famille.
Je pense que vous faites allusion à ce qui s'est passé à Zanguera Kliné. Je trouve justement, et ça s'est bien sûr, ça s'est passé justement là, et ça a été vraiment horrible, hein, de voir une telle scène. Et Jacques, et ça se comprend quand vous donnez justement ces messages alors d'espoir. Et mais il est très important d'être aussi vigilant.
Justement, je suis d'accord avec vous. Mais Pascal, vous savez, rien ne peut arriver dans ce monde que vous, en tant qu'enfant, vous puissiez même mettre la main sur votre maman ou bien votre papa. Hein? Toucher votre papa, toucher votre maman par rapport à une altercation, c'est déjà une malédiction. Et prendre le couteau ou bien le coupe-coupe pour tuer votre maman, Pascal, vous voyez que ça, c'est vraiment horrible. Donc, il ne faudrait pas souhaiter ça à chacun, à chacune d'entre nous. Comme je l'ai dit, même s'il arrivait qu'il y a des difficultés, il faut qu'on sache effectivement raison garder. Et comme je l'ai dit, c'est à des centres qu'on puisse se soigner. Aujourd'hui, à ces centres de prière, des pasteurs qui sont là, qui seront également disponibles à nous.
Et il est très important qu'on surmonte justement ces difficultés, puisque les difficultés font partie de la vie, hein. N'est-ce pas, Gonson Ketomania? Bonjour.
Bonjour, Pascal. Aux auditeurs et auditrices de la radio, Canal FM, j'adresse mes sincères salutations. Je ne saurais passer sous silence les fidèles lecteurs de Liberté. Ben, tu sais, Pascal, tout à l'heure, tu as fait allusion à des textes de loi, de projets, de code pénal et autres. J'étais loin d'imaginer que il y a encore de citoyens togolais qui ont du mal à se faire établir le certificat de nationalité de par leur situation. Je m'explique. À supposer que moi, Godson, j'ai que ma mère qui m'a mise au monde ait été violentée, violée. Ou alors que sous le coup d'une faiblesse d'un soir, elle se soit laissée aller à consommer l'acte et n'a plus de nouvelles de l'homme. Mais les mois passant, découvre que elle me porte en son sein. Peut-être que sa famille, dans sa famille, il est interdit qu'on avorte. Donc, elle mène la tête jusqu'au bout. Et là, j'arrive au monde. Elle a tout fait pour me taire la vérité. Mais il vient un moment où je sens des signes et je finis par comprendre que le nom de famille que je porte n'est pas celui de mon père. Je ne connais pas mon père. Mais tout ce que ma mère pourra me dire un jour, c'est qu'il s'appelle tel, sans connaître son origine. Or, j'ai besoin d'avoir mes pièces d'identité, Pascal. Comment est-ce que je dois m'y prendre pour qu'enfin, moi aussi, je sois citoyen togolais? Ma mère est togolaise, mon père, elle me dit qu'il est togolais, mais elle ne connaît rien de lui, à part son nom. J'ai entendu dire qu'il faudrait, dans cette situation, remonter dans le village d'origine de mon père pour obtenir un certificat d'origine à la préfecture. Mais il faudrait alors que les trois générations, mon père inclus, cette génération, que j'ai le nom de tout cela pour me faire établir le certificat d'origine, Pascal. Or, au départ, ma mère a été victime de, ou a subi une faiblesse, et je suis venu au monde. Je suis sûr de un de ces cas, mais je suis sûr que de Lomé à
Saint-Cassien. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité pour l'enfant de recevoir plutôt le nom alors de sa maman?
Le fait est que, par exemple, sa maman n'est pas de ce pays, n'est pas du Togo, à supposer qu'elle soit béninoise. Mais l'enfant aime le pays, le Togo, là où on l'a conçu. Moi, je sors cette histoire pour interpeller les autorités en charge de ce problème-là, pour que ce soit la directrice du service des nationalités, ou je ne sais quoi, ou le ministère de la Sécurité, il faut, ou de la Justice. On a besoin, je ne suis pas le seul actuellement, on a besoin qu'il y ait des palliatifs, un moyen, des moyens pour que ceux-là aussi aient droit à la nationalité du pays. Autrement, chaque fois nous sollicitons ou alors encourageons les citoyens à bien sûr porter, à tenir malgré tout, mais jamais nous n'avons, je n'ai jamais pensé qu'il y a aussi cet aspect, ces genre de citoyens qui existent. Donc c'est comme si je me faisais le porte-voix pour qu'enfin il y ait, on officialise un moyen de règlement de ce sujet-là.
Merci beaucoup, Gosson Ketomana. Je sais que c'est une situation délicate, hein, et ça se passe bien sûr dans nos sociétés. Mais c'est là, je posais la question maintenant, tout naïvement, à savoir si dans ce cas l'enfant ne peut pas porter aussi le nom alors de sa maman, et pour les comment ce qui concerne alors les papiers et tout, pour que ça soit vite fait. Je ne maîtrise pas trop le sujet. Didier Assoba, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à mes aînés.
J'espère que vous allez bien.
Dieu fait grâce.
Dieu fait grâce, merci beaucoup et merci d'avoir accepté notre invitation.
C'est un plaisir.
Jacques, c'est vrai que vous parlez tout de suite alors de ce mois d'octobre. Mois d'octobre, justement, c'est le mois du consommer local, c'est aussi le mois de la campagne alors de lutte contre le cancer. Et en ce mois d'octobre, bien sûr, le Togo se souvient, s'informe et aussi s'engage dans la lutte contre le cancer. Et ce matin, nous recevons une voix qui porte, hein, une voix d'expérience et d'espérance, celle du président de la Ligue togolaise contre le cancer, un homme qui, depuis plus de 20 ans, consacre sa vie à sauver celle alors des autres. Et sous son leadership, la Ligue a sensibilisé, dépisté et accompagné des milliers de femmes à travers tout le pays, du Grand Lomé au coin alors des les plus reculés alors du Togo. Aujourd'hui, il vient lancer justement un appel fort à la nation et celui d'un Togo où chaque citoyen et citoyens, quel que soit alors son revenu, puisse avoir accès aux soins contre le cancer. Stéphane Komi Awiti, bonjour.
Bonjour Pascal.
J'espère que vous allez bien.
Je vais bien, merci de me recevoir.
Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Est-ce que dans cette présentation, vous vous reconnaissez quand même?
Bon, mon humilité, je suis un peu gêné, mais je pense que c'est un combat de nous tous. Je fais partie, je suis qu'un maillon de la chaîne. Et c'est sans les autres, je pense que ce parcours que vous venez de dresser, je ne pourrais pas le faire seul. Donc, en toute humilité, je me reconnais un peu, mais pas totalement. C'est un ensemble. C'est nous tous qui avons réussi. Pascal, Canal FM est notre premier partenaire, fait partie de l'un des premiers partenaires médias qui nous avait accompagnés quand nous avons porté sur les fonds baptismaux l'association Espérance et Vie Nouvelle le 11 mars 2006. Je m'en souviens très bien. Et c'est avec beaucoup d'émotion. Et donc, je pense qu'on a fait le chemin grâce aux hommes de médias, aux hommes et femmes de médias, grâce aux médecins, grâce à tous les acteurs qui se sont impliqués, aux bénévoles, aux généreux donateurs, aux partenaires qui ont cru en nous et qui ont été sensibles à la cause. Et je pense que c'est très important de les remercier, de les saluer aujourd'hui pour ce qu'ils ont pu contribuer à travers... Bon, moi qui porte l'initiative, je pense que nous avons encore du chemin à faire, mais le chemin que nous avons fait aussi n'est pas mal. Mais nous devons vraiment faire un saut aujourd'hui qualitatif pour que le Togo puisse vraiment se retrouver vraiment dans cette lutte. D'accord. Par rapport aux autres pays de la sous-région.
Merci Stéphane. Alors Stéphane, par rapport à cette lutte, comment se porte aujourd'hui la lutte contre le cancer?
Pascal, je viens aujourd'hui, le cœur serré, mais animé d'une conviction profonde, car le Togo peut gagner cette bataille. Nous pouvons, parce que si les autres pays ont pu agir, innover, je pense que le Togo n'est pas un mauvais élève. Si nous prenons par exemple le Sénégal, il a mis les moyens. Il a les radiothérapies dans les centres publics, accessibles aux Sénégalais. Même, il y a 3 molécules qui sont insérées dans le package de prise en charge qui constitue les protocoles. Le Ghana, le Burkina d'à côté, le Bénin a emboîté les pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, malgré que nous avons fait 20 ans de parcours, nous avons sensibilisé, nous avons dépisté. Mais le plus grand problème épineux reste aujourd'hui. Nous n'avons pas pu prendre en charge tout le monde. Nous essayons, mais la prise en charge du cancer est vraiment onéreux, lourd, coûteux, traumatisant. Et un Togolais moyen ne peut pas faire face à lui seul.
Et là, il faut la contribution de l'État.
Il faut la contribution de l'État. Il faut la contribution de l'État. Chaque année, plus de 5000 Togolais souffrent du cancer et plus de 3000 décèdent. Ça fait 8 malades qui décèdent par jour. Et parmi ces 8 malades, 4 femmes font partie. C'est-à-dire les 3000 décès dont nous parlons, la moitié, c'est les femmes qui décèdent. Et ça doit nous interpeller.
Comment se fait-il que c'est les femmes qui sont disposées ou prédisposées même à cela?
Mais la réalité est là. La réalité est là. Je pense que c'est les chiffres qui nous les prouvent. Moi, je ne saurais pas répondre autrement.
Surtout que vous n'êtes pas aussi un spécialiste.
Mais le pourcentage. Mais parce que je m'en vais vous dire que le cancer du sein bat le plus grand
record.
Et je pense en 2022, et le cancer du sein était arrivé à la tête de toutes les formes de cancer. Et au Togo, plus de 27% du cancer du sein est retrouvé chez la femme. C'est le premier cancer qui tue la femme aujourd'hui, suivi du cancer du col de l'utérus. Les deux, si je prends par exemple les chiffres, je vous donne les chiffres rapidement. On dit par exemple du cancer du sein, 973 cas sont détectés chaque année, avec 524 décès. Si nous prenons par exemple le cancer du col de l'utérus, 511 sont détectés chaque année, avec 334 cas de décès. Vous voyez qu'à peu près, ça pèse lourd. Et c'est des bras valides. En fait, c'est des morts précoces, prématurées. La plupart que nous recevons et que nous n'avons pas pu faire grand-chose, c'est des bras valides qui contribuent aux côtés de leurs enfants, de leur famille, qui contribuent au PIB. Vous voyez? Et le plus grand défi aujourd'hui, c'est la prévention et tout faire pour qu'on puisse prendre en charge toutes les femmes qui souffrent du cancer. Que ce soit riche ou pauvre, chaque femme a besoin d'être soignée convenablement pour le cancer. Et nous devons faire la prévention pour que le dépistage précoce puisse vraiment atteindre vraiment les coins les plus reculés. Et que les femmes ne viennent plus à l'hôpital à des stades vraiment tardifs. Parce que plus de 70 à 80% des femmes qui viennent à l'hôpital, c'est à des stades tardifs.
C'est-à-dire la maladie à un niveau où
parce
peut-être...
Parce que si je vous montre les photos, si je vous montre les photos, vous ne pouvez pas les regarder deux fois. Je pense qu'on doit arriver là. Mais moi, j'ai dit une fois sur un média que le jour où l'État subventionnera le cancer, aucune femme n'acceptera jamais de cacher son cancer, de rester jusqu'au stade tardif avant d'arriver à l'hôpital. Si vous savez qu'on
comment peut traiter. Est-ce que c'est parce que c'est coûteux, tel que vous l'avez dit, c'est pour cela que la femme...
La psychose qui entoure la maladie. D'abord, il y a aussi quelque chose que je devais dire. Si on prend 10 boules, 9 boules ne sont que des tumeurs bénignes. C'est à peine une boule qui arrive jusqu'à tumeur maligne. Mais la peur qui entoure ce mot cancer, ça fait que s'il y a une anomalie sur le sein, la femme dit oui, c'est cancer. Au lieu d'aller rapidement à l'hôpital, et le traumatisme, la peur, elle n'arrive pas à aller jusqu'au bout.
La peur est justifiée.
Et cette peur est justifiée parce que si je vais à l'hôpital, on va me dire, le protocole de chimiothérapie, c'est des millions. Qu'est-ce que je vais faire? qu'est-ce que je vais faire? Je ne pouvais pas. Cette peur, il y a beaucoup de choses qui entourent cette peur. Il faut démystifier ce cancer. Nous essayons, mais je pense qu'on doit sauter. On doit faire un grand pas aujourd'hui pour permettre à toutes les personnes souffrant du cancer d'avoir accès aux soins. Le thème de cette année, c'est l'accès équitable au dépistage et aux soins. Un droit pour toutes les femmes. C'est le thème que nous avons choisi. Ça parle long. Je pense que nous devons aujourd'hui faire tout pour que la femme puisse se dire que, ah, à une anomalie près, je m'en vais à l'hôpital et il y a la subvention et que je peux être prise en charge.
Alors, quand vous parlez alors de subvention de l'État aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que l'État fait dans cette lutte?
L'État fait beaucoup de choses. Parce que on salue ce que l'État fait. L'État a essayé de voir les infrastructures, d'actualiser les infrastructures. Il a beaucoup de choses. Par exemple, Pascal, il y a quelques années, une dizaine d'années, si vous vous souvenez, je disais qu'il n'y a pas de radiothérapie au Togo. Il n'y a pas un oncologue au Togo. Aujourd'hui, il y a un oncologue. Il y a 3 oncologues. Il y a 4 oncologues. C'est à saluer. Et il y a encore des oncologues, des radiothérapeutes, des chimiothérapeutes qui sont en cours de chemin.
Il y a même un centre, bien sûr, non?
Il y a un centre de cancérologie. Et avant qu'un centre de cancérologie soit installé dans un pays, il faut voter la loi nucléaire. Et je m'en souviens très bien quand moi j'ai participé à la mission internationale de l'énergie atomique. C'est l'État togolais mais qui a demandé cette expertise. Et on m'a nommé, le ministre m'a nommé en ce temps responsable de la sûreté civile dans le domaine du cancer pour accompagner la mission. Et à la fin de la mission, le Premier ministre nous a reçus et a pris à cœur pour que cette loi nucléaire soit votée. Et ça n'a pas été voté à temps, mais je pense que j'étais venu sur les médias à chaque fois parler, et finalement, ça a été voté. Et ça nous a permis d'avoir ce centre de radiothérapie aujourd'hui.
Mais est-ce que ça veut dire qu'avec ce centre aujourd'hui, la chimiothérapie, enfin, tout ce qui concerne le traitement du cancer se fait à Lomé?
Tout est là. L'appareil, il n'y a pas meilleur appareil de radiothérapie. Vous allez à votre séance, vous retournez à la maison. Parce qu'avant, ce n'était pas ça. Hein? Le rayonnement, tout ça, là, je vous ai...
Donc, aujourd'hui, mais sauf que c'est cher.
C'est là où je viens. Et ce n'est même pas encore pris en charge par l'INAM, par l'assurance. C'est qu'il y a encore du chemin à faire. Je pense que l'État a fait beaucoup de choses. Hein? Je vous le dis sincèrement.
Il reste encore beaucoup. Hein?
Beaucoup de choses. Oui, le problème, c'est que moi, je caricature en disant que c'est comme un accidenté qui est au bord de la voie, qui attend le sapeur-pompier pour venir le sauver à l'hôpital. Les malades sont là. Tout ce que l'État fait est là. Mais pour aller se faire soigner, il faut payer. Une seule séance de chimiothérapie entre 300 et 500 000 francs. Pascal, qu'est-ce que Togolais? Est-ce qu'il faut faire parfois 4, 6, 8, voire 10 séances de chimiothérapie? Pascal, je connais des dames qui travaillent. Mais quand vous les voyez en face du traitement, c'est lourd et coûteux. Elles n'arrivent pas à elles seules pour faire face à ce traitement. Nous pouvons faire quelque chose. Le Togo peut faire quelque chose. Nous croyons en ce Togo qui nous est commun. Nous pouvons arriver. Nous pouvons arriver. J'ai foi. Et aujourd'hui, après 20 ans de parcours, en voyageant beaucoup dans les autres pays, parce que la Ligue fait partie de toutes les organisations internationales aujourd'hui. L'UICC, tout, Aliam, tout. Et nous voyageons souvent. Et nous faisons des batailles d'expérience, etc. Et nous-mêmes, les associations, se rassemblent pour voir ce qui se fait ici et là, et pour voir ce que chez nous, on peut encore faire des plaidoyers. Mais j'ai foi. J'ai foi, Pascal, parce que le 1er octobre, je suis rentré bien dormi sous mon lit.
Vous avez foi.
Oui, parce que le 1er octobre, le ministre de la Santé m'a reçu avec ma délégation. J'ai remis un plaidoyer.
Et qu'est-ce que le plaidoyer dit? Quoi concrètement?
Il faut créer un fonds national de solidarité contre le cancer au Togo. Aujourd'hui, il faut le faire. À travers le financement de l'État et des partenaires, on peut le faire. Il faut rendre la gratuité. Il faut subventionner. Subventionner surtout le cancer des enfants. Les enfants. Une famille qui a envie de voir le fruit de leur amour et un enfant qui naisse, qui tombe malade, qui doit faire plus d'un an à l'hôpital, à l'oncopédiatrie. C'est difficile. Les familles laissent leur travail, leur boulot, pour venir rester aux côtés de leurs enfants. je pense que l'État doit faire. Bien vrai qu'il y a une partie subventionnée, mais je pense qu'il faut aller jusqu'à la subvention complète. Ça, je pense que l'État peut le faire. Il faut subventionner le dépistage. Dépister du sud au nord, les campagnes de dépistage que nous organisons depuis 2009 que nous avons porté l'Octobre Rose au Togo, nous faisons toujours à tarif réduit depuis 2009 jusqu'à ce jour. C'est vrai, on fait quelque chose, mais l'État doit accompagner ces efforts des associations. Je pense que ça peut se faire. Et nous pensons que dans le plaidoyer, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas tout citer ici. Il faut installer un centre de cancérologie, il faut désenclaver, décentraliser. Les régions, chaque région peut avoir un centre de cancérologie, un centre de radiothérapie. On est allé dans des pays, on a vu un centre de radiothérapie. Imaginez qu'une femme, pour faire un simple examen de mammographie, doit quitter le nord pour arriver à Lomé. Avant, imaginez, simple mammographie, Lomé.
C'est à Dapaon, donc il ne doit pas courir.
Oui, aujourd'hui, il y a un centre à Dapaon qui est fonctionnel. Aujourd'hui, il y a un centre à Kara. Aujourd'hui, on rend grâce. Je vous parle de quelques années. Imagine la souffrance. C'est tout cela qui fait qu'aujourd'hui, ça, quand on parle de dépistage tardif de ces femmes, tout ça, c'est beaucoup de choses qui entourent ça. Beaucoup de difficultés. Vous voyez? D'accord. Donc, ce que nous pensons, c'est que, bon, je pense que le ministre nous a rassurés. Et nous avons foi que ces mots porteront ses fruits pour que d'ici peu, quelque chose soit fait. Parce que le premier pas compte. On n'a qu'à commencer par subventionner le cancer du sein du col de l'utérus. Imaginez, Pascal, que si vous me demandez aujourd'hui quelle est la cause du cancer du sein, j'allais vous dire tout simplement que parce que on appelle femme femme. Elle est femme seulement, elle doit.
Comment est-ce que ça veut dire que quand on est femme...
Une femme sur 8 souffrira du cancer du sein dans sa vie parce qu'elle est femme. Pascal.
Ça, c'est pas une fatalité d'être femme quand même.
Justement. Et il y a ce que nous ne disons pas souvent aussi. Les hommes souffrent du cancer du sein.
Mais on même si c'est à
1%, oui, mais moi j'ai reçu. J'ai reçu, j'ai envoyé, j'ai orienté, j'ai suivi. J'ai vu 2 décès.
Et ça se passe toujours comme chez la femme?
Oui. C'est toujours dans le sein. Les hommes, nous avons des seins seulement que nous n'avons pas de grands seins. Mais il y a les hommes qui ont des poitrines vraiment comme la morphologie, comme si c'était femme. Ils doivent faire l'auto-examen des seins. Nous ne blaguons pas. Si quoi que c'est pour la femme le cancer du sein, non. Il doit prendre un jour dans le mois et faire son auto-examen des seins. Se mirer pour voir est-ce que la couleur a changé, est-ce que le volume, etc. Sinon, je pense que c'est il sera surpris.
D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. C'est vrai, je reviens à vous tout de suite. Mais je sais que Gosson a une réaction à faire par rapport à cette intervention. Gosson, c'est vrai, quand Stéphane donnait les chiffres, je vous ai vu dans votre réaction et aussi quand il parlait alors de la chimiothérapie qui est aujourd'hui onéreuse et que des fois il arrive que, enfin il est très important que l'État subventionne alors cette prise en charge.
C'est le mois d'octobre qui est le...
L'octobre rose.
L'octobre rose, oui. Je suis né en octobre.
Joyeux anniversaire.
Dans quelques jours, tu me le souhaiteras. Il faut être concret et pragmatique. Je l'ai écouté. Il a donné l'exemple de quelques pays. Si dans ces pays, la prise en charge y est totale, je pousse le bouchon plus loin en disant que le fond dont il parle, il suffit par exemple que dans le budget de la loi de finances 2026, l'État décide que la dotation en carburant au ministre, DG, que maire et député, que cette dotation-là soit affectée pour le traitement de ou la prise en charge des malades du cancer. Je sens qu'il va, ce monsieur va retrouver le sourire, quand bien même lui-même, il n'en souffre pas. Parce que quand on dit plaidoyer, le ministre nous a reçu, c'est un fait, c'est un document. Mais si je l'avais entendu me dire, par exemple, que le ministre lui a dit que lui, personnellement, ne va plus toucher le bon de carburant, mais l'affecter au centre, ça sera un vrai début. Que des centre de cancérologie existe à Kara, à ou aussi Dapaon. Est un fait. Mais tant que le fait d'entendre le mot cancer, c'est pire que le sida. Soyons honnêtes. Le cancer, c'est je ne sais combien de fois pire que le sida. En ce sens que le sida, aujourd'hui, il y a les antiretroviraux et gratuit. Mais si je vais à la détection et on me trouve ça, qu'est-ce que je vais faire? C'est là même que la maladie va se déclencher. Mais il vient de le dire, le jour, chacun saura que, ah, si je suis malade, on va me prendre en charge. Plus personne n'attendra d'être malade. On va se précipiter pour faire la détection. Donc, la balle est lancée, c'est dans le cas des autorités. Il ne suffit pas seulement de voir que en Côte d'Ivoire ou au Bénin, on arrive à restreindre l'internet ou alors on convoque les gens pour un clic. Il faut aussi prendre les exemples vertueux sur d'autres pays. Et ça, c'est un exemple vertueux.
D'accord. Jacques?
Non, vous savez, quand on parle de l'État, ce n'est pas seulement l'État qui faut faire appel. Il y a les banques. Il y a la société civile. Il y a des gens qui ont les moyens qui peuvent, par exemple, subventionner. Vous savez, quand on parle aujourd'hui des centres de dépistage et les centres également de prise en charge, c'est coûteux, hein, Pascal. Très coûteux. Si vous n'avez jamais eu un ami ou bien quelqu'un de la famille qui a eu le... Vous ne saurez pas ce qui se passe. Et c'est pénible. Comme Gosson l'a dit, si on vous annonce que votre proche a le cancer, mais c'est comme si c'est fini. Et c'est fini. Alors que dans d'autres pays, quand on suit la personne guérit. Hein, la personne guérit. Mais il faut vraiment soutenir. Il faut vraiment subventionner. Et c'est le lieu d'inviter les uns et les autres. C'est-à-dire que ceux qui savent qu'ils ont les moyens, demandez également à l'État. Parce que nous savons que quand on... Le plus grand pourvoyeur aujourd'hui, quand on parle en termes de moyens, c'est souvent on fait face à l'État. Mais les banques, comme je l'ai dit, la société civile, certains sont là. Vous pouvez vous approcher de ces centres et, par exemple, donner de l'argent. Parce que certains centres fonctionnent à travers les fondations. Hein? C'est les fondations. Il faut subventionner ces fondations, donner de l'argent à ces fondations. Et ces fondations pourront prendre cet argent-là pour aider maintenant nos sœurs qui sont malades. Il a parlé tout à l'heure des centres, c'est vrai. Pascal, des années antérieures, on savait comment nos compatriotes souffraient. Les gens allaient au Ghana, surtout à l'hôpital de Kolebou. C'est là-bas que nos sœurs allaient avant. Mais aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a des privés même qui ont ces centres. Il y a des privés qui ont également ces centres où nos sœurs peuvent aller effectivement se faire dépister. Et où également, on peut les suivre par rapport à celles qui ont déjà développé les maladies. Il y a ces centres où les étrangers quittent pour venir ici au Togo, pour se faire soigner. Donc je crois que c'est un appel qu'il faut lancer à tout le monde, à nos compatriotes qui sont à l'écoute. Il faudrait aujourd'hui que chacun puisse se dire que si ce n'est pas arrivé dans ma famille, ça n'arrivera pas. Mais ceux qui en souffrent déjà, il faut vraiment leur venir en aide par rapport. Parce que le coût, c'est cher, il faut reconnaître. Pour soigner ce genre de personnes, le coût est tellement élevé, Pascal.
Didier ?
Non, mais moi, je crois que je ne sais pas pourquoi Jacques cherche à dédouaner l'État ou à décharger l'État de sa responsabilité. Vous voyez que quand on sous-traite un domaine aussi sensible au privé, il ne reviendrait que les chiffres concernant les décès vont s'augmenter d'année en année. Ça, c'est clair là-dessus, parce que le privé... Quel que soit ce qu'on pourra expliquer, l'aide d'abord pour faire des bénéfices. Donc, à partir de ce moment-là, si vous n'avez pas d'argent, il ne va pas faire dans le monde quand même avec son centre. Hein. Donc, il faut justement que l'État puisse prendre la question du cancer très au sérieux et que, comme on en voit dans la sous-région, on ne va pas donner d'exemple parce que ça pourrait irriter. Comment ça se fait dans la sous-région, on puisse au moins prendre des dispositions qui allègent la prise en charge du cancer ou à la limite subventionne ou que l'État lui-même puisse se donner les moyens. On pourrait faire des prêts là, dans ce sens-là.
l'État lui-même puisse se donner les moyens pour mettre des centres de cancérologie publics qui prennent en charge les traitements. Et là, on sait que l'État est en train de soigner sa population et les coûts de prise en charge, enfin le coût de traitement pourra revenir un peu plus, voilà, supportable pour monsieur tout le monde. Mais si l'État n'a pas de centre public qui prend en charge une telle maladie, vous conviendrez avec moi que, quels que soient les plaidoyers de Stéphane ou d'autres, ou le bon vouloir, la bonne volonté du ministre qui promettrait, ça va s'arrêter juste là, au bon cœur et au bon désidérata des uns des autres. Mais il vaut mieux que l'État prenne carrément les dispositions de mettre des centres de cancérologie, ne serait-ce que deux pour le moment. Un pour couvrir la partie septentrionale et l'autre pour couvrir la partie méridionale. Donc, pour nous justement encourager les uns les autres à aller se faire dépister. Et quand tout le monde sait qu'on est dépisté maintenant, et que la prise en charge est là, et grâce à l'État, on pourra se prendre en charge sans se ruiner, sans vendre tous les terrains de la famille, sans voilà. Et la psychose de cette maladie-là va commencer progressivement à quitter. Et l'autre sujet sensible également, il faut insister là-dessus, c'est que M. Stéphane, et là je réagis sous son contrôle, a dit tout à l'heure que pour le moment, l'assurance maladie en cours dans le pays ne prend pas encore en charge le traitement du cancer. Et là,
de la radiothérapie.
Et là, c'est quand même grave.
C'est grave.
C'est quand même grave. À supposer qu'un fonctionnaire ou, je ne sais pas, quelqu'un qui est assuré, je ne sais pas,
régulièrement,
qui est en règle et qui développe une maladie n'a pas de demander à avoir un cancer. Et s'il ne peut pas être pris en charge par la radiothérapie, c'est quand même assez grave. Donc, c'est des décisions politiques qu'il faut prendre dans ce sens, des décisions politiques animées d'humanité qu'il faut prendre dans ce sens-là pour aller vite. Là, nous sommes dans le mois du consommer local, dans le mois de, voilà, octobre rose. Il faut quand même qu'un certain nombre de décisions aillent rapidement dans ce sens-là pour soulager la vie de tout le monde. Et là, si on le dit, on le dit pas pour l'intérêt de quelqu'un particulièrement. Là, c'est pour monsieur tout le monde. Parce que le cancer ne connaît pas la couleur politique, l'appartenance politique, ne connaît pas l'origine des uns et des autres. Et donc, si on le dit, c'est pour l'intérêt de monsieur tout le monde. Et donc, il vaut mieux que si les services de l'État sont à l'écoute, prennent note de ce que nous proposons ici pour que dans les semaines à venir, on puisse avancer dans ce sens-là.
Stéphane, maintenant, pour ce qui concerne la campagne, puisque nous sommes en octobre, qu'est-ce que la Ligue prévoit?
Bon, déjà le 1er octobre a démarré la campagne de dépistage. Et depuis 3 ans, nous avons inclus au dépistage du cancer du sein le cancer du col de l'utérus, parce que c'est les deux cancers féminins qui font ravage. Donc on dépiste ces deux cancers et à un coût très réduit. Le package fait 25 000 francs. Vous allez, mais si une femme décide de faire un dépistage au lieu des deux, elle peut le faire également. Donc, cette année encore, d'autres cliniques, hôpitaux se sont ajoutés aux cliniques traditionnelles qui nous accompagnent depuis 2009.
La clinique partenaire.
Oui, tout à fait. On est plus de 11 à 12 déjà, je pense. Il y a si vous permettez, je vais rester rapidement. Il y a la clinique Alpia, il y a la clinique Morbidjo, la clinique La Bonté, le centre médico-social Isis, l'hôpital Dr Lafia, l'hôpital privé Hôtel Delhi, le centre de cancérologie et Damadaromé, la polyclinique Rossine-Wegbogbo et Beraka. Je pense que Beraka, c'est la dernière fois, m'a donné un centre. Oui, je pense que c'est la clinique Beraka. Et il y a en tout cas, j'ai la liste qui passe sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Que on fait le communiqué, tout cela. Mais on peut appeler le 90 15 91 94 pour avoir plus d'informations. Et nous souhaitons que ce mois d'octobre, la meilleure chose à faire à une femme, à sa mère, à sa fille ou bien à sa sœur, c'est de payer son dépistage des deux ou bien de l'un de ces dépistages. La personne aura fait une grande action.
Et c'est un grand cadeau quand même que vous avez à donner
au lieu de donner des pagnes, etc. Oui. Je pense que c'est très important de le mentionner.
Merci beaucoup.
Est-ce que les femmes ne voient pas que l'argent, c'est trop? Parce que la femme va comprendre que si elle ne fait pas ce dépistage et arriver à un moment, on voit que c'est déjà tardif. Il y a une question de non-retour. Et là, vous dépensez des millions et des millions. Vous êtes obligé de les dépenser sans avoir réellement une guérison totale.
D'accord. Stéphane, vous restez avec nous. Nous allons poursuivre le débat ici au Club de la Presse. Tout compte fait, vous aurez, je sais que déjà à partir de midi, nous allons donner la parole à nos auditeurs. Ils auront certainement des questions à vous poser et aussi cet appel que vous aurez à lancer en fin d'émission. Merci de rester avec nous. Gosson, nous allons continuer le débat. On parle alors de ce sujet que j'évoquais au début, alors d'émission, face alors à la multiplication des dérives sur les réseaux sociaux. Le procureur de la République est près le tribunal de grande instance de Lomé. Mahama Talaka a averti, désormais, un commentaire ou une publication ou un like sur les réseaux sociaux pourront faire preuve alors de poursuite pénale. Et on lit bien sûr, à travers la sortie alors du procureur de la République, quiconque produira, reproduira, diffusera, publiera, partagera à travers une plateforme numérique un fait qui sort du cadre légal en vigueur sera l'objet de poursuite pénale sans compromis et sans complaisance. Il en sera de même pour quiconque publiera un commentaire validant une publication illicite. La complicité par approbation expose également à des poursuites car la loi nous impose à tous de dénoncer tout crime ou délit dont nous avons connaissance. Ce sont là les propos alors du procureur de la République. Gosson, vous êtes revenu bien sûr sur le sujet. Vous écrivez Pegasus, coupure d'internet, délit d'opinion sur les réseaux sociaux, même en Corée du Nord, l'on trouverait ces mesures répressives un peu exagérées. C'est bien ça?
Et comment? Quand c'est exagéré, il faut le dire poliment, mais avec conviction, Pascal. On était là. En fait, il ne fait pas guère d'être procureur de la République cet ancien. Hein. Et moi, personnellement, même si j'ai pu faire la magistrature, je ne pourrais pas accepter d'être magistrat du parquet.
C'est compliqué ces derniers temps.
Et comment, Pascal, pour une seconde fois, comment est-ce que quand toi, tu suis un dossier et qu'il t'arrête, que là, tu dois déclarer un non-lieu ou alors acquitter le concerné, il suffit que ta hiérarchie t'appelle pour te dire non, prends plutôt cette décision. Tu es tenu de prendre ça. C'est consacré dans le statut des magistrats du Togo. À cette allure, pour moi, monsieur le procureur actuel, Mahama Talaka, n'est qu'un fusil. Quand on lui dit, tire de ce côté, il s'aligne et fait feu. Quand on dit retourne à 180 degrés, il est tenu parce que c'est la loi. Eux-mêmes, ils ont voté cette loi. Donc, il est tenu. Passons. J'aurais aimé que dans le communiqué, on nous mentionne les articles du code pénal qui disent que un clic, un like, une reproduction et autres pourraient faire l'objet.
En tout cas, dans le code pénal, ça n'existe pas.
Ah!
En tout cas, bien sûr, puisque un like, un commentaire, ce n'est jamais mentionné dans le code pénal.
Mieux. Nous avons aujourd'hui une Assemblée nationale, un Sénat, les deux formant un parlement. Pour que ce dont on informe les citoyens soit un acte, il fallait quand même suivre les formes, faire passer ça par la cuisine parlementaire, qu'on y mette du gingembre, de la tomate et autres, et surtout du sel pour lui donner un certain goût, que ça soit un peu agréable. Mais sauter, escamoter ça là, et que le judiciaire, sur instruction, viennent produire ça, Pascal. Dans le même temps, c'est nous qui voulons que, quand le citoyen a connaissance d'un fait ou alors de certains mouvements anormaux, qu'il prenne la peine d'avertir l'autorité. On a même des numéros verts à cet effet. Mais en quoi est-ce qu'aujourd'hui, un clic, un like et autres va valoir une comparution? Suppose, nous les hommes de médias, je crois que le délit de presse est dépénalisé. Voilà. Gosson, sur un coup de tête, sans avoir procédé à toutes les vérifications requises, prend un article qui pourrait tomber sous le coup de la loi, conformément au communiqué. Je serai convoqué, d'abord peut-être par la HAC, mais assurément pas au tribunal. Mais on ne va jamais m'emprisonner. À la rigueur, une amende.
à supposer que Jacques, citoyen lambda, qui a vu l'article sur les réseaux sociaux, il a liké, il a partagé, il a commenté.
Ah, mais il sera poursuivi.
Alors que l'auteur primaire ne sera pas détenu. Lui pourra être détenu. C'est où la logique, Pascal? Soyons conséquents envers nous-mêmes. Ce n'est pas parce que le Bénin et la Côte d'Ivoire se sont engouffrés dans ce trou que nous aussi nous allons le faire. Tout à l'heure, le Sénégal et d'autres pays se sont engouffrés dans le trou de la prise en charge du cancer. Pourquoi nous ne nous engouffrons pas dans ce trou? Parce que ça ne nous arrange pas. Soyons véridiques et polis. Ça là, en tout cas, les citoyens vont apprécier, chacun appréciera.
D'accord. Alors, Didier, au regard alors de tout ce que le procureur de la République a dit le vendredi dernier lors de la conférence de presse, est-ce que aujourd'hui on a encore le droit d'utiliser les réseaux sociaux ou justement les nouvelles technologies?
Bon, d'abord, c'est le procureur de la République après le tribunal de grande instance de Lomé qui a fait la sortie.
Mais
que dit le procureur de Sévier? Que disent les autres procureurs qui sont près, les autres tribunaux un peu partout à travers le Togo? Je crois que la sortie du procureur Mawama, donc je crois que c'est valable que sur le territoire... Oui, il est territorialement compétent, non? Enfin, il n'est pas procureur de la République de tout le Togo.
Non.
Donc, à partir de ce moment-là, quelle est la valeur juridique de sa sortie de la dernière fois? C'est eux qui ont étudié le droit. Nous n'avons pas étudié, mais nous observons et nous analysons. Quelle est la valeur juridique de sa sortie? C'est un communiqué, c'est un test de loi.
Une note de service.
Bon, voilà. Moi, je me suis posé beaucoup de questions.
Mais en fait, c'est une conférence de presse qu'il a animée.
Oui, mais voilà, quelle est la valeur juridique de cela? C'est sur la base d'une conférence de presse qu'on poursuivrait quelqu'un qui aurait liké quelque chose sur un réseau social demain. C'est sur la base, à partir d'une conférence de presse, voilà, qui a un ultimatum, et on va poursuivre quelqu'un qui aura partagé quelque chose demain. Vous savez, je pense que nos autorités veulent avoir une mainmise sur les réseaux sociaux, mais personnellement, je pense qu'ils ne s'y prennent pas de la bonne manière. Et dans la précipitation, ils risquent de commettre beaucoup de gaffes et qui donnerait karma une autre image du pays, qui ne leur plaira pas demain. Je crois que c'est pas de cette façon-là qu'il faut contrôler le numérique. L'espace numérique, c'est un espace trop grand, trop vaste, et même les pays qui ont tous les moyens pour contrôler cet espace-là n'arrivent pas à cadenasser cet espace. Et si nous voulons transposer dans le numérique nos pratiques d'il y a quelques années, les transposer rapidement vers le numérique, je crois qu'on deviendra un autre état. On va bafouer nos propres tests de loi qui existent, y compris la constitution, je crois, pour faire plaisir à tout le monde, l'ancienne constitution comme la nouvelle constitution, on va bafouer toutes les tests de loi que nous avons et qui encadrent la liberté d'expression. Un certain nombre de choses dans ce cadre-là, je crois que si on veut procéder de la façon dont le procureur est sorti de la dernière fois, là, vous savez, les Togolais vont devenir des zombies sur le numérique.
Oui. Comment ça, des zombies?
Mais dis-moi, moi, tu sais, je le dis, ça, des choses que moi, je ne dis pas. Moi, j'ai fait un mémoire de master sur la communication politique de groupes de pression sur les réseaux sociaux numériques. Si vous voulez, je mettrai ce mémoire-là à votre disposition. Moi, j'ai fait un travail scientifique déjà il y a 3 ans en arrière sur ce qui se passe aujourd'hui. Et je crois que, et je continue de croire que les autorités ne s'y prennent pas du bon bout du tout. Donc, si c'est de cette façon ils veulent procéder, vous allez voir que quel sort ou qui pourra détecter quelqu'un qui a par exemple un faux compte, qui publie des choses, qui partage, qui like, et qui, bon, je sais pas, quel moyen le procureur a aujourd'hui d'aller prendre quelqu'un qui a un faux compte, qui like, qui publie, qui commente, qui fait tout ce qu'il veut sur le numérique. Il y a un moyen de l'arrêter? Non. À la limite, on va faire dépenser l'État de prendre les moyens pour peut-être bloquer, supprimer ou faire un certain nombre de choses. Mais ça va s'arrêter là. Demain, l'individu reprendra un autre faux compte et va continuer. Si c'est à ça, ils veulent pousser tous les... Mais qu'on rende tous les Togolais zombies sur les réseaux sociaux. Moi, je crois fondamentalement que on peut sensibiliser des gens, encourager des gens à faire des choses dans la civilité et tout ce qu'ils font. Mais quand on fait peur à tout un peuple avec ce genre de sortie, mais il y a aujourd'hui sur le numérique beaucoup de moyens de pouvoir contourner la menace du procureur. Et pour moi, cette menace-là, elle n'est pas valable. Elle peut être valable que pour des gens qui ne s'y connaissent pas. Je te donne cet exemple-là. Quand on avait restreint l'accès à un certain nombre de réseaux sociaux, TikTok, Facebook, YouTube, un certain nombre, il y a quelques semaines en arrière, et à la connexion et tout. Mais tous les Togolais sont partis télécharger des VPN, non? Est-ce que ça a empêché la restriction à l'accès à ces réseaux sociaux? Avait-elle empêché les Togolais de continuer à faire un certain nombre d'activités qu'ils voulaient faire sur les réseaux sociaux? Là, est-ce que cette restriction n'avait pas empêché? Le numérique, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est pas aussi facile que l'espace public physique, que un procureur peut sortir menacer des gens. Si vous manifestez, on va vous mettre en prison. Le ministre de la sécurité pourra sortir. Si vous manifestez, on vous arrête, on va vous mettre en prison. Le numérique, c'est pas comme quelqu'un qui va à Kodjindi, vous êtes ou à la plage, vous l'êtes. Non, le numérique, c'est carrément autre chose. Et donc, c'est pour cela que je dis la sortie du procureur, des gens vont l'apprécier, mais ça ne rend pas service à l'État. Cette sortie-là ne rend aucun service à l'État togolais.
D'accord. Jacques, oui, c'est vrai, nous avons tous ensemble suivi cette sortie alors du procureur de la République. Quelle est votre analyse alors sur ce que le procureur de la République a dit?
Non, je crois qu'au Togo, il faut qu'on cesse d'habiller les femmes des autres.
Comment ça?
Non, c'est-à-dire que je suis le seul habilité à apprécier l'habillement de ma femme, c'est-à-dire que pour l'habiller dans la chambre, même l'antichambre. Ce n'est pas à Godson de venir habiller mon épouse. Ce n'est pas possible. Si elle s'habille, elle sort, il peut apprécier son habillement. Et pour que s'habille, elle sorte, c'est moi le responsable. Qu'est-ce que je voulais dire par là, Pascal? Vous savez, aujourd'hui, s'il n'y avait pas, par exemple, ce que nous assistons, je ne pense pas que le procureur allait sortir. Il faut se poser de bonnes questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Togolais est devenu comme ça. C'est comme ça qu'il faut commencer pour pouvoir résoudre, pour pouvoir régler les problèmes. Est-ce qu'on assistait à ça avant? On n'assistait pas à ça. Pourquoi d'un seul coup le Togolais est devenu comme ça? Posons-nous de bonnes questions. Et à partir de là, Pascal, nous allons trouver des solutions. Nous allons régler les problèmes. Mais si on veut toujours penser qu'on a raison par rapport à une situation, on va se créer des problèmes. On ne va pas arriver à résoudre les problèmes. Mais c'est maintenant même que nous allons créer encore d'autres problèmes. Il a dit, Pascal, on était dans ce pays quand on a fait quoi? On a restreint les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Mais est-ce que, Pascal, vous avez senti que on avait restreint les réseaux sociaux? C'est comme si rien n'était. C'est peut-être ceux qui ne maîtrisaient pas cet outil informatique ou bien les réseaux sociaux qui avaient des difficultés. Mais ceux qui maîtrisaient la chose, vous avez vu que ça a continué. Autre aspect, Pascal, de la chose. Le Togo produit de bons tests. Quand vous lisez la loi sur la cybercriminalité et tout ça, mais quand vous lisez ça, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on arrive à vulgariser ça? Combien savent? Combien de Togolais savent qu'il y a ce genre de tests? Vous ne vulgarisez pas les tests. Un matin, vous sortez, vous dites que si vous le faites, on vous applique la loi. Demain, une personne se retrouvera peut-être devant un juge. Si le juge lui pose la question, il va dire mais que lui ne sait même pas que ça existe au Togo. Et ce monsieur-là, vous allez le jeter en prison pour rien du tout. et peut-être on dira que, bon, nous ignorons la loi.
Eh bien, c'est la formule.
Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'on dira. Mais peut-être que le monsieur, à son âme et conscience, il ne sait pas qu'il y a un truc comme ça. C'est vrai de réguler. Nous tous, nous sommes d'accord, Pascal. Nous sommes d'accord de réguler. Mais ce que j'ai dit, qu'est-ce qui a poussé le Togolais à être comme ça aujourd'hui? Posons-nous de bonnes questions. Et essayons de trouver des pistes de solutions et nous allons régler ce genre de choses. Pascal, qu'est-ce qui peut pousser, par exemple, ton frère, ta sœur, à se mettre nu devant les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui peut te pousser un ami, une sœur ou bien un ami, à insulter une autorité? Pascal, il faut se poser de bonnes questions. Et si on se pose de bonnes questions, je vous dis qu'on va trouver des solutions. On trouvera des solutions par rapport à ces situations que nous sommes en train de traverser, une bonne sensibilisation, je vous dis que, Pascal, et occuper également les gens. Si ceux qui font ce genre de choses, Pascal, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Quelqu'un qui se lève le matin, qui sait qu'il va rentrer, par exemple, à minuit. Pascal, vous croyez que le monsieur aura le temps d'aller sur TikTok ou bien Facebook pour faire quoi?
Non, parce qu'il est occupé.
Hein? Parce qu'il est occupé. Vous croyez que la personne peut s'adonner à ça? Quelqu'un qui est occupé, qui se lève par exemple à 5 heures du matin, qui est obligé de rentrer peut-être à minuit, parce que ses affaires, il court de gauche à droite, ça marche pour lui. Il va faire quoi avec TikTok?
Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui sont souvent sur TikTok et autres, non, sont tellement libres?
Mais c'est ce que j'ai dit. Maintenant, une bonne réflexion. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, une bonne réflexion avec cette jeunesse-là. Qu'est-ce qui pousse les jeunes à se comporter comme ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Si on mène une bonne enquête, je vous dis que on va trouver des pistes de solutions. Peut-être que certains, vous allez voir que c'est la dépression. Les autres, vous allez voir que peut-être que c'est un manque d'emploi. D'autres également, c'est peut-être qu'ils sont en train de consommer la drogue quelque part et ça les crée des soucis. Donc avec ça, Pascal, je vous dis que si on mène une bonne réflexion, nous allons trouver des solutions. Laissez nos compatriotes, par exemple, qui sont à l'étranger, qui se disent, bon, peut-être qu'eux, ils n'ont plus peut-être d'avenir pour revenir vers ici. Parce qu'ils se disent que s'ils ne font pas ça, peut-être qu'ils n'auront pas gain de cause. Et eux aussi, Pascal, exemple, on peut trouver des solutions à ces compatriotes. Pascal, je ne vois pas quelqu'un qui puisse être là, qui a toutes ses facultés, Pascal, se lever de 6h à midi, de midi à 18h, qui sera là en train d'inciter une autorité. Je ne vois pas. C'est parce que quelque part, peut-être qu'il y a un décalage. Par rapport à ce décalage, on peut corriger le décalage. Et vous allez voir que tout va rentrer dans l'ordre, Pascal. Moi, c'est ce que je pense.
D'accord.
Le procureur, sa sortie, je serai par exemple à sa place, je le ferai autrement. Parce que pour le moment, quoi qu'on dise...
Vous le ferez autrement comment?
C'est ce que je voulais dire. Mmh. Pour le moment,
oui.
Quand vous prenez par exemple une sœur, une frère qui est peut-être quelque part Nainga. Ce que le procureur a dit là, vous croyez que lui est au courant de ça? Vous croyez que la personne est au courant de ce qui s'est passé, le point de presse là, entre nous? Vous croyez que la personne...
Mais peut-être quand nous animons des émissions comme cela, ils seront au courant.
Mais c'est toi qui animes.
Non, ils attendent la sortie du procureur de là-bas.
C'est ça le problème.
D'accord. Oui, disais, c'est vrai que déjà, dans l'après-midi ou en début alors d'après-midi, hein, du vendredi où le procureur de la République a fait la sortie, et nous avons appris l'arrestation alors de Grace Koumaï Bikoni. Et je lis cela même d'ailleurs sur votre site, hein, Togo Breaking News. Vous écrivez Grace Koumaï Bikoni de nouveau arrêté. Et là, c'est bien sûr une activiste, une militante politique et aussi sage-femme. Et on la connaît tellement sur les réseaux sociaux. C'est sorti alors sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle fait déjà les frais?
Non, je ne sais pas. Il faut que les autorités communiquent d'abord officiellement sur cette arrestation et communiquent également sur les charges retenue contre Dame Bikoni pour qu'on sache véritablement si on lui reproche ses publications sur les réseaux sociaux ou ses prises d'opposition ou ses opinions à elle, qu'on sache véritablement quelle appréciation faire. Tout ce qu'on sait, c'est que vous connaissez l'engagement de Madame Grace Bikoni qui, ces derniers temps, elle faisait un peu... des publications ou des sorties pédagogiques, on peut dire, jusqu'en allant à Haute pour constater une ville sinistrée ou qui, où on exploite le phosphate, mais une ville qui n'a, ben, si je dis ville, une localité qui n'a pratiquement rien. Vous voyez, pour tous ceux qui connaissent Haoté, donc il n'y a pas de, il n'y a rien à vous apprendre concernant Haoté. Mais si on vous dit que le phosphate, c'est à Haoté et que vous passez par Haoté, vous tombez quand même des nus. Donc, c'est des choses comme ça qu'elle publiait ces dernières semaines sur ses comptes sociaux, y compris également la ville, enfin, la localité de Pomé, pas très très loin d'ici. Donc, si c'est pour ces choses qu'on l'arrête, donc, je crois que il faut que les autorités communiquent clairement, comme j'ai dit, sur les charges retenues contre elle, et là, qu'on apprécierait. Il est interdit d'aller à Raoté, de faire des vidéos de la localité, de faire connaître aux Togolais ce qu'est Raoté comparativement à l'exploitation des ressources minières de là, interdit d'aller, par exemple, chez moi, à Tablikbo, de montrer l'aspect, le visage de ce qui est appelé ville de Tablikbo, qui n'a pratiquement rien d'une ville, mais qui a trois usines autour d'elle là-bas. Et qui n'apporte pratiquement rien aux citoyens de là. Si c'est des délits de montrer des choses comme ça, qui sont des réalités du Togo, si c'est des délits de les montrer, bon, qu'on communique clairement là-dessus, qu'on dise clairement là-dessus qu'il est interdit de parler des villes du Togo.
D'accord. Oui, Gosson, oui. C'est vrai que vous êtes revenu sur quelqu'un qui est déjà en prison et vous écrivez « Maintenu en prison malgré une ordonnance de libération, l'artiste Prince Fadel condamné à mourir à petit feu au CHU Sylvanus Olympio. »
C'est vrai. À moins que nous vivions dans un autre monde, c'est la réalité. Tu sais, aujourd'hui nous sommes le 6 octobre. Normalement, c'est hier, je crois, que le délai prescrit pour qu'on connaisse les maires et adjoints soit là. C'est hier qu'on devait... Si c'est pas hier, c'est toujours. Ou alors, voilà. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 6. Et ce n'est pas... Personne ne sait quand ça va se passer. Et pourtant, il y a une loi qui demande ça. Quand... Ce que nous sommes prescrits comme loi, nous prenons plaisir à la violer. C'est le même cas pour Fadel. Finalement, par rapport à tout ce qui se passe, je veux référer les gens à Arthur Koestler, qui a écrit « Le cheval dans la locomotive ». Notre pays, la gouvernance, c'est ça le cheval. La locomotive, c'est les nouvelles technologies, la réalité. Tu es comment un cheval dans la locomotive pour vouloir courir plus que la locomotive. Nous sommes à un autre temps. Mais les pratiques de ceux qui sortent ces lois et autres s'apparentent à du passé. C'est du dépassé. Il faut qu'on actualise ce qui est quoi. Qu'on revienne à la réalité. Autrement, concernant Dankoumaï. Parce qu'elle a fait cette publication, donc quelqu'un d'autre qui va liker, commenter, devrait aussi comparer devant le parquet du Togo. Bref, nous avons encore du chemin, beaucoup de chemin à faire.
Mais Jacques, sur ce point, c'est-à-dire concernant l'élection des maires et de leurs adjoints, finalement, on ne sait même plus ce qui se passe, puisque ça a été reporté par trois fois, et on n'a même plus alors d'écho, tandis qu'il y a un délai, et le délai est passé déjà hier.
Je suis d'accord avec vous. Je crois que, vous savez, nous sommes toujours dans l'entente de l'élection. Mais il faut reconnaître que, c'est pas. J'ai suivi un peu le discours de l'ambassadeur de. Je crois que c'est de l'Allemagne. Il a dit quelque chose de fondamental. Que je crois qu'on devait. Quand même puisé dans ce qu'il a dit une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le constat, c'est que on n'avance pas. Il faut qu'on avance. Le constat, c'est que on fait du surplace par rapport à l'élection de ces maires.
C'est-à-dire à la décentralisation?
Oui. Parce que, Pascal, déjà, on ne peut pas comprendre qu'est-ce qui bloque. On ne peut pas comprendre. le ministre de l'administration territoriale avait annoncé déjà les couleurs à deux reprises, trois reprises. On dit qu'on reporte finalement, on ne donne plus de dates. Mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le problème? Les gens ont été élus. On ne peut pas dire que les gens ne sont pas élus. Si les gens n'étaient pas élus, on peut comprendre. Mais du moins, les gens sont élus. Mais allons-y. Allons-y. D'autres font allusion à peut-être à la formation du gouvernement par rapport à l'élection de ses maires, parce que il faut peut-être que certains veulent aller occuper les mairies et puis il faut libérer. Donc, mais je crois que, vous savez, les deux choses ne peuvent pas aller ensemble.
Il n'y a pas de rapport.
Justement, vous voyez aujourd'hui, Pascal, quoi qu'on dise, vous voyez la farine dans laquelle Macron est en train de rouler la France aujourd'hui. Vous voyez, c'est un problème. Donc, je crois qu'il faudrait, quand on prend par exemple des décisions, avançons. Et puis il faut faire des choix judicieux par rapport à la politique. Si vous ne faites pas des choix judicieux, après vous aurez des problèmes.
D'accord.
Donc, je crois qu'on doit avancer. On doit avancer. L'élection a eu lieu, que les conseils se retrouvent et qu'ils élisent les maires en avance.
D'accord. Merci, cher confrère. Nous allons donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne. Ils peuvent nous appeler sur nos deux numéros 90 86 35 35, 91 36 ou 315. Et aussi sur notre numéro WhatsApp. Ils peuvent réagir 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs. 93.5. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Maintenant, vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 315. Allô?
Pascal, bonjour.
Bonjour, Évangéliste Senghor, comment vous allez?
Ça va, la Togolais. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est Dieu qui contrôle nos vies au Togo.
Dieu merci.
Je salue à tous nos plateaux, sans oublier mon frère Jacouti. Bon, Pascal. Et nous devons savoir que on est là pour un petit temps. Je le dis tout le temps et je le réitère. On est là pour un petit temps. Le Togo appartient à tout le monde, à tous les Togolais. Si nous ne sommes pas là, Faure Gnassingbé et tout son gouvernement aussi ne sont pas là. Si aussi eux aussi ne sont pas là, nous aussi ne sommes pas là. Mais vous voyez, quand ils sont des autorités, il ne faut pas qu'ils utilisent leur autorité pour piétiner la population. Je le réitère encore. Quand on parle d'une autorité là, l'autorité n'est pas là pour piétiner des gens. Dans les autres pays, l'autorité est là pour protéger sa population. Un papa qui est là, qui est en train de mettre ses enfants en prison. J'ai écouté bien le tout à l'heure. Le Togolais est poli à l'époque. Mais pourquoi ces choses maintenant? Il faut que je suis réfléchi qu'il y a un problème. Alors, je vous parle. Il y a une milliardaire de gens qui mangent. Ils ont des milliards dans leur maison. Mais ils ne veulent pas que nous on mange. Mais écoutez, craignons Dieu là. Je vais directement pour lancer un appel à nos dirigeants de craindre Dieu.
D'accord. Et merci, Évangéliste Senghor, 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô.
Bonjour.
Bonjour.
C'est Monsieur Nyamavo.
C'est Nyamavo, chef.
Allez-y.
Oui, Madame Ikoni, vraiment c'est une vaillante femme aussi. Et elle avait fait cette vidéo-là sur Pierre. Et ça l'a valu aussi l'arrestation lors de la première manifestation. Un journaliste me disait, si on ne doit plus parler de nos localités, si c'est une loi maintenant, il faut que la loi soit claire. Elle dit qu'elle a été candidate pour les élections législatives. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se bat pour que le Togo aille mieux. Et si quelqu'un se bat pour que la localité se développe, c'est celui-là qu'il faut mettre en prison et laisser celui-là qui est allé acheter des châteaux, investir à l'étranger au lieu d'investir dans le pays. Bon, pour le cas du procureur, j'ai une question à lui poser, mais il n'est pas au plateau. Hier, j'ai suivi le live de votre collègue, Ferdinand Ité. Mais je lui fais savoir que je n'ai pas liké, je n'ai pas partagé, je n'ai rien fait. Mais est-ce qu'on peut suivre quand même? Est-ce qu'on peut écouter quand même? C'est-à-dire qu'on ne peut pas fermer la fumée dans la cuisine. On ne peut pas. les réseaux sociaux comme, aujourd'hui sont comme un gaz. Hein? Si on ne peut même pas prendre l'eau qu'on peut saisir dans un récipient pour boire, on ne peut pas le saisir dans la main, est-ce que c'est le gaz qu'on peut saisir dans la main? Mais comment on peut le faire? Seulement ils vont prendre quelques-uns, comme ils savent le faire, pour faire semblant d'intimider. Sinon, s'ils vont prendre tous ceux qui vont liker, tous ceux qui vont partager, je pense que le Togo est même prison déjà. Parce que tout le monde suit les réseaux sociaux aujourd'hui. Bonne émission.
Merci pour votre intervention, monsieur Nyamavo. Allô?
Bonjour.
Bonjour, Séni, comment vous allez?
Le message de l'amour se porte très bien comme un ange aussi.
D'accord, allez-y.
Bon, concernant le procureur, moi, je voudrais dire que, donc, on va tous nous enfermer, ça. La liberté d'expression est un droit fondamental qui permet aux citoyens de donner leur avis et de partager leurs idées tout en respectant les règles et les lois en vigueur. Donc, le gouvernement n'a pas de voir ce qu'il a dit. C'est pas bien. Merci pour l'émission.
Merci, Océni, pour votre intervention. Bonjour, le plateau. La décision ou la conférence de presse du procureur n'engage que lui. Et ce n'est que dans la logique de la gouvernance du pays, gouverné par la peur et prendre alors des initiatives sans aucun fondement juridique qui ne constituent que des toiles d'araignée dans lesquelles ils s'engouffrent eux-mêmes. Et dommage que les gouvernants disent avoir le pouvoir, mais ne gouvernent pas dans le sens alors du mot. Courage à eux, tôt ou tard. On verra le bout alors du tunnel et chacun rendra compte. C'est bien sûr un auditeur qui nous envoie ce message. Allô?
Oui, allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Comment vous allez?
Très bien, Agbovon de Tuzandé.
Ah, c'est monsieur Agbovon, allez-y.
Oui, je salue les frères au plateau.
Oui.
Bon, moi, je vais parler par rapport à la France. Honte à eux. Non, c'est quoi? Mais on dit que les gens, on va les suivre. Oh, ça veut dire quoi? Et oh, non. Bon, je vais demander le frère Jacouti de m'expliquer, moi, bon, personnellement, qu'est-ce qu'on met dans le panier des affaires courantes là? Quand on dit les affaires courantes là, est-ce qu'il peut m'expliquer ça correctement? Si c'est en vernaculaire aussi, ça va me permettre de comprendre. Parce que quoi? Maintenant, le commun a formé le gouvernement hier. Pas tout le gouvernement aussi, mais il démissionne ce matin. Est-ce que les ministres qui ne sont pas nommés, les postes où on n'a pas encore nommé les ministres, eux aussi vont spéculer les affaires courantes ou bien comment? Merci.
Merci à Agbovon pour votre intervention. 90 86 35 35. Le message que j'avais lu entre temps, c'est pour Nono qui nous écoute bien sûr. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal.
C'est monsieur Maouna.
Oui, monsieur Pascal.
Ah, d'accord, allez-y.
Comment vous allez?
Ça va aussi, par la grâce de Dieu.
Salut le plateau aussi. J'aime bien votre analyse.
D'accord.
Très bien. Monsieur Pascal, moi, ce que je vais demander, seulement à nos gouvernants de réhabiliter les prisons. Moi, s'il faut créer des prisons, deux prisons dans chaque région, deux grandes prisons dans chaque région, à ce moment-là, où nous parlons maintenant, nous allons aller en prison. Comme ils ont renové les morgues, tout ça là, nous, maintenant, on est tranquille, un peu tranquille. Qu'on aurait renouvelé aussi les prisons. Parce que si on like, on partage une prison, on va là-bas. Et on se réveille aussi là-bas et on couvre les moutons. Quand il faut que je sois les moutons, on va dire, ben, c'est vraiment, ils ne vont rien, ils ne vont pas les déranger. C'est mieux. Merci. Bonne émission.
Merci pour votre intervention. Je salue le plateau concernant l'arrestation de Dame Grace Koumaï. Je pense que la corporation à laquelle elle appartient doit communiquer. J'en appelle au syndicat de son domaine professionnel pour la libération de cette dame. C'est Madiba qui nous écrit depuis Adido Gombe. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va très bien, mon grand frère.
C'est monsieur?
C'est Dodi de Daravé.
Ah, Dodi de Daravé. Ça fait un moment, Dodi. D'accord, allez-y.
Je vous remercie tous les confrères qui sont avec vous. Hein. Seulement ce matin, ils ont parlé comme ils sont dans mon cœur. Imaginez quel pays qu'on peut vivre comme ça. Maintenant, ils veulent quoi? Qu'est-ce que nous, en tant que Togolais, là, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi nos dirigeants savent qu'ils ont des frères pour gouverner ou bien pour les éduquer? Quelqu'un qui va regarder une vidéo et qui va le convoquer ou bien l'arrêter.
Pourquoi? Nous sommes fatigués de tout ça là. Mais il n'a pas savoir que Dieu existe. Dieu est là.
Merci Dodi, Dodi de Daravé, 90 86 35 91 36 103 115. Allô, madame Messi, oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Et allez-y.
Oui, bon. On débat toute la vie. Et puis, ça nous pourrit la vie. Ça nous pourrit la vie. Quand c'est comme ça, là, un régime qui pourrit la vie, sur des décennies. On le bénit, quoi. Il y a des articles dans la Constitution qu'on fait bénir. On les bénit de leur fonction. Ça dit que ça nous gouverne en, comment on dit ça? Tout est périmé. Les gouvernants même sont périmés. Ils sont périmés, mais ils sont là, ils forcent. Maintenant, c'est quoi cette histoire de réseaux sociaux, de machins, tout ça? Ils n'ont que ça à faire. On a dit qu'ils ont détruit le pays. Ils l'ont ruiné. Il s'agit de ça, pas des insultes sur les réseaux, tout ça. Là. C'est eux qui l'ont cherché. Il n'y avait qu'à alterner 5 ans après. 5 ans, le pays ne serait pas dans cet état où il y a la dépravation à mort, quoi. Il faut qu'on porte plainte pour arrêter ce cirque. Voilà.
D'accord, merci Madame Issy pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes. On va recevoir le dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien.
C'est Monsieur Yao?
C'est Johannes.
Ah, Johannes?
Oui.
D'accord, allez-y.
Les Togolais auraient été de petites fourmis dans la salle de conférence la dernière fois. Ils auraient compris que le Togo est malade de ses journalistes. Je me demande, est-ce qu'un journaliste a eu le courage de demander au procureur, est-ce que c'est son rôle de venir dire ce qu'il a dit? Est-ce qu'il est le ministre de la Justice? De la même manière, parce que, vous savez, c'est quand il y a des choses qui concernent uniquement ton territoire de compétence que tu organises une conférence ou bien tu parles au journaliste de cela. Deuxième remarque, est-ce qu'il est en train de créer des lois? C'est-à-dire, est-ce qu'il devient législateur pour créer des lois, de nouvelles lois? Dans une conférence de presse, on crée des lois comme ça? Il invente des lois? Est-ce que... Je ne comprends pas. Bon, maintenant, quand M. Diakouti dit, malgré tout ce qui est, c'est-à-dire tout ce qu'on peut constater dans le mois et dans cette sortie, il se limite à dire que les gens sont sur des réseaux sociaux du matin jusqu'au soir à insulter les autorités. Mais il ne faut pas parler en l'air, il faut préciser de qui il s'agit. Là, on saura que tu parles avec preuve. Il ne faut pas juste parler comme pour donner l'impression de juste parler. Il faut parler des preuves. Là, on sait que tu parles avec des éléments concrets. Qui insulte les autorités du matin jusqu'au soir? C'est qui? Et puis on dit que c'est des gens, on dénonce des choses qui se passent mal dans le pays.
Merci beaucoup, Johannes. Je pense que notre temps est tellement avancé. On va revenir en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. Jacques, vous avez écouté les uns les autres.
Oui, je crois que Johannes n'a pas compris ce qu'on a dit. Et je voulais inviter les auditeurs, lorsque on débat, prenez le temps d'écouter ce que les gens disent avant de réagir. Et j'ai dit ici qu'il faudrait qu'on fasse une analyse. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'aujourd'hui qu'on dise que les gens sont sur les réseaux en train d'insulter les autorités. Faites l'analyse pour voir. Je n'ai pas dit que les gens sont là en train de...
Effectivement, voilà, vous n'avez pas dit
ça. Il faut que les gens fassent attention, écoutez ce que nous disons. Et puis réagissez par rapport à ce que nous avons dit. Ne sortez pas hors de ce que quelqu'un n'a pas dit pour en faire un discours. Donc j'ai écouté les uns et les autres, comme on l'a dit, Pascal. Il faudrait aujourd'hui que nos autorités puissent communiquer mieux. Il faut communiquer mieux. Et avant de sortir de ce genre de choses, et comme mon confrère Gordon le disait tout à l'heure, il faut passer par des circuits. C'est-à-dire que ça, là, si l'Assemblée nationale avait pris cette, quand ils ont pris cette, disons, est allé à l'Assemblée nationale en a discuté, le Sénat et tout, et qu'on essaie de sortir nos lois, ça peut se comprendre. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que c'est l'incompréhension totale par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, il n'y a pas une sensibilisation par rapport à ça. Donc, je crois que c'est le lieu, avec tout ce débat que nous sommes en train d'avoir, et les auditeurs, et ce qui se passe dans les réseaux, sur les réseaux sociaux, l'autorité pourra apprécier, voir ce qu'il faut faire par rapport à cette situation.
D'accord, merci beaucoup Jacques. Oui, disiez.
Non, j'ai déjà dit le fond de ce que je pense. Je crois que cette histoire de régulation des réseaux sociaux, il vaut mieux faire appel aux experts et qu'on fasse une réflexion dans tous les sens, une réflexion en bonne et due forme pour arriver à trouver un mécanisme pour réguler les réseaux sociaux. Sinon, la façon dont on se prend actuellement là n'est pas la bonne et je crois que ça va créer carrément autre chose. Et il vaut mieux pas que on pousse les Togolais à cela. Je crois que si on cherche à comprimer, à empêcher les gens de parler, ils s'exprimeraient d'une autre manière.
De par d'autres canaux,
d'une autre manière que demain peut-être on n'apprécierait pas. Donc je crois qu'il faut laisser la parole libre aux gens, mais trouver un mécanisme quand même pour encadrer.
D'accord.
Ce sera le sens de la réflexion qu'il faut mener.
D'accord, merci beaucoup Dizier. Oui, Gosson.
Oui, au sujet du cancer, dans notre pays, on avait déjà sollicité la population pour contribuer pour les CAN. Aujourd'hui, que le gouvernement mette d'abord la main à la pâte pour informer les citoyens de ce qu'il va mettre dans la cagnotte et inviter la population à participer. Ça, c'est pour le cancer. Pour la sortie du procureur, je crois qu'il serait bon que dans notre constitution, on fasse un rectificatif. Et ça, c'est un appel que je lance à M. Baquet, M. Adédé, pour dire que la liberté d'expression existe. Mais c'est la liberté après expression qui va poser problème. Et pour terminer, par rapport au communiqué, c'est en ça que quand on a un parlement multicolore, dynamique, ces genres de sorties ne peuvent pas se produire. Parce que autrement, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. S'il y avait de l'équilibre, de la vraie équilibre dans ces deux chambres, je suis sûr que depuis vendredi, on aurait eu des sorties d'autres députés pour dire qu'ils sont contre cette manière de faire là. Mais ni M. Adédé, ni M. Baquet ne peuvent oser s'offusquer de ce qui s'est passé.
D'accord, merci Gosson. Oui, Stéphane, Witi, nous sommes à la fin de cette émission. Votre mot de la fin.
Merci de nous recevoir. Je pense que les pays qui ont pris sur eux de subventionner le cancer, ce n'est pas qu'ils sont riches, mais c'est qu'ils ont fait un choix. Ce choix, c'est de sauver la vie humaine de leurs citoyens. Et je pense que le Togo aussi peut le faire et doit le faire. Aujourd'hui, nous lançons un appel au gouvernement, mais c'est un appel aussi bien ferme pour qu'on puisse subventionner de façon partielle les plus vulnérables et prendre en charge les cancers des enfants, créer un fonds, surtout un fonds national d'appui au traitement du cancer et inclure au moins 3 médicaments anticancéreux essentiels dans la couverture nationale. Décentraliser le dépistage et les soins dans toutes les régions. Ce n'est pas une dépense, mais c'est un investissement dans la santé, la positivité, la dignité de nos peuples. Et nous pensons que nous aurons pu faire quelque chose de grand.
D'accord.
Qui merci. Ressemble un peu aux autres pays.
Merci beaucoup Stéphane Kombi Domefa Witi d'être passé alors dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue togolaise contre le cancer. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à Jacques Dakouti d'être passé dans cette émission, journaliste analyste. Merci d'être passé. Merci à Didier Assogba d'être passé, directeur de publication du journal Togo Breaking News, journal en ligne bien sûr. Merci d'être passé. Merci à Gosson Ketomanyan, journaliste à Liberté. Merci d'être passé dans cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Michel Tomega qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakoutier était à la mise en ligne. Je suis Pascal Oussou. Je vous retrouve demain, mardi, à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission. Portez-vous bien.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, est une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.